Nous sommes mardi 6 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Un peu frais ce matin, mais toute la semaine, on prévoit du soleil et des températures qui graduellement vont grimper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un maximum de 24, soleil-nuage. Demain, c'est du soleil 26. Jeudi, du soleil 28. Et puis vendredi, du soleil 28 degrés également. Pour vous dire que la normale de saison tourne autour de 21 degrés. Et la nuit, c'est autour de 11. Donc, on est quand même un peu plus élevé que ce qu'on retrouve habituellement au mois de septembre. 11 morts, 18 blessés. Et quand je dis 11 morts, j'inclus un des deux individus qui étaient recherchés. 13 scènes de crime au total. Donc, un des deux suspects décédé en Saskatchewan sur ce territoire Cree. La GRC donne très, très peu d'informations. Il semble que les victimes, dans certains cas, étaient ciblées. Dans d'autres cas, ont été choisies de façon aléatoire. Donc, des gens assassinés ou blessés par arme blanche. Le suspect qui demeure, Damien Sanderson, lui est décédé. C'est plutôt son frère, là, Miles, qui est encore recherché et qui se trouverait, selon ce que la police pense, à Regina ou dans le secteur de Regina. Pourquoi ces gens-là ont été tués? Pourquoi ils ont été blessés? Il n'y a pas la moindre indication donnée par les forces policières. On essaie de comprendre. Les deux individus sont connus de la police avec des dossiers criminels quand même importants dans le cas de Miles, qui est le plus costaud. On pense peut-être qu'il a même tué son frère ou qu'il est même blessé, qu'il y a eu une altercation entre les deux. C'est pas très clair, ça non plus. Mais que les deux, donc, qui sont membres de cette nation ou pas, certains disent que oui, d'autres ne sont pas capables de le confirmer, avaient quand même de lourds antécédents judiciaires. Alors, il n'y a pas de motif, il n'y a pas d'explication. On ne sait pas ce qui est arrivé, puis on ne sait pas pourquoi exactement ça s'est passé comme ça. Ce qu'on peut mettre en lumière, par contre, c'est le sort d'une autre nation, Cree, Première Nation, qui vit dans des conditions extrêmement difficiles. C'est une population environ 2000. Et vous retrouvez là, comme ailleurs, les mêmes types de problèmes. Problèmes de logement, problèmes de pauvreté, de chômage. Je voyais en fin de semaine, je pense que le revenu tourne autour de 18 000 $ et tous les problèmes de consommation de drogue reliés à de la violence, bref. Et ils ont eu le lot, je dirais, de drames au fil des années. Il y a eu une fusillade l'an passé. Des membres de la communauté ont également témoigné dans l'affaire des pensionnats autochtones. Alors, ce sont des gens marqués. C'est le contexte général, mais on n'en sait pas plus. Vraiment, ce matin, on ne peut que attendre de voir les conclusions de l'enquête policière, puis peut-être l'arrestation de l'autre suspect. Parlons de la campagne électorale. D'abord, nous avons un sondage ce matin. Le Soleil, FM 93, notre station sœur à Québec, c'est fait par Segma. Et ça touche la région de Québec. Pas la ville de Québec, mais, comme on dit, le Grand Québec. Qu'est-ce que ça donne comme, d'abord, intention de vote avec la répartition des indécis? Il faut faire attention, mais quand même, ça donne le portrait suivant. 42 pour la CAQ, 25 pour Éric Duhaime, 16 pour Québec solidaire et loin, loin derrière, le Parti libéral à 6 et le Parti québécois à peu près 6% également. En plus de ça, quand vous regardez l'âge, et c'est ça qui est bien intéressant, chez les 18-34 ans, c'est une polarisation. Donc, les électeurs plus jeunes sont soit à gauche avec QS, soit à droite avec Éric Duhaime. Je suis à peu près certain qu'on risque de voir le même phénomène dans d'autres régions au total. Et chez les 18-54, le tableau montre vraiment une bataille à trois. 28 pour la CAQ, 33 pour Duhaime et Gabriel Nadeau-Dubois est à 23. Alors, malgré toutes les polémiques qui entourent le chef conservateur, de toute évidence, il a des assises dans la région de Québec. Est-ce qu'il a perdu des plumes ailleurs? J'ai vu des sondages passer en fin de semaine qui indiquent que oui. Mais c'est clair que, surtout dans la banlieue de Québec, c'est là qu'il performe le mieux. Le fameux troisième lien. Puis là, on a vu M. Legault qui veut ramener ça à une bataille Montréal-Québec, là. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non? Grosso modo, 60 % des gens sont favorables à ce tunnel Québec-Lévis. Et pourquoi les autres sont en désaccord? Une question de choix, une question de coût. Pour ce qui est du tramway, alors là, c'est un peu différent. On se rend compte que ce tramway, projet de Régis Labeaume, ça fonctionne plus ou moins. Il y a un intérêt assez mitigé autour de 21%. Et, je veux juste conclure sur le sondage, sur la popularité du maire de Québec, Bruno Marchand. Et on dit souvent que l'opposition à la CAQ va venir des nouveaux élus. On pense à Bruno Marchand, Catherine Fournier, Boyer, le maire de Laval, et d'autres élus de villes peut-être de plus petite taille, mais qui constituent une forme de relève. Taux de satisfaction à 73 %, ce qui est quand même très élevé. Donc, un an au pouvoir, ou presque, et on peut dire que Bruno Marchand est allé chercher des appuis quand même extrêmement importants. Parlons de la campagne électorale, qui a pris quand même un certain corridor en fin de semaine, avec des propositions sur plusieurs sujets. On ne peut pas aborder tout ce matin, mais il y a quand même trois ou quatre enjeux importants. D'abord, l'environnement. Là, Québec solidaire a présenté son fameux plan. Des investissements de dizaines de milliards par année, puis on veut réduire les gaz à effet de serre de 55 % d'ici 8 ans. Comment on va faire ça? Ça demeure encore un peu flou sur les moyens. Oui, on veut mettre une taxe sur les véhicules comme les VUS. Oui, on veut construire des infrastructures de transport collectif, mais réduire peut-être la consommation de viande, taxer les entreprises polluantes, aller vers une décroissance, mais ça reste encore à préciser. Et ça reste aussi à être monnayé, là, chiffré dans les engagements financiers. Il y a beaucoup d'experts qui ont dit « c'est un plan qui se tient ». Tu dis oui, mais en même temps, comment tu vas le faire? Et la question est simple. Qu'est-ce qu'on demande aux citoyens? De ne pas prendre l'auto, ou le moins possible, d'avoir une auto plutôt que deux, d'arrêter de se déplacer, de prendre le transport en commun. Et l'arrimage entre ces projets d'infrastructure de transport en commun et votre véhicule de tous les jours va se faire de quelle façon? On va en parler avec le porte-parole. C'est pas un chef, porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. L'autre dossier important, c'est celui de la santé. Le premier ministre et Christian Dubé ont lancé ce projet de faire de la place au privé en santé. J'ai vu le tollé en fin de semaine de plusieurs qui disent que c'est une insulte aux travailleurs du réseau public, que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est privé. Ça va prendre des profits, puis que les profits vont se faire au détriment des patients. Bon. Premièrement, dans d'autres pays, on a ce partenariat, je pense au Danemark, puis ailleurs, là, en France aussi. C'est différent, mais quand même. Public-privé. De demander, et un GMF en passant, c'est une entreprise privée. Mais c'est l'État qui paye. Puis là, je voyais le débat. Moi, j'ai fait deux ou trois conclusions à partir de ça. La première, c'est que Christian Dubé a perdu confiance pour le changement de culture dans le réseau de la santé. Il sait très bien qu'il va se heurter aux bureaucrates mammouths, puis à la rigidité syndicale de la FIC, entre autres. Fait que là, plutôt, il va s'essayer, là, mais plutôt que de mettre tous ses œufs dans ce panier, il se dit, je vais aller vers une entreprise privée, on va ouvrir des mini-urgences pour les cas mineurs, puis les gens n'iront pas engorger. Puis c'est logique que tu n'aies pas besoin d'un plateau technique complexe pour quelque chose qui nécessite une intervention mineure. La première réflexion. La deuxième, entre vous et moi, la seule question que tu te poses, là, moi, je vais avoir accès à des services et à ne pas payer. je veux pas aller au privé. Et ce que l'État te dit, ce que Jean Charest avait déjà dit, si on peut pas te soigner dans le réseau public, on va t'envoyer au privé puis on va payer. Donc, beaucoup de Québécois, c'est l'autre partie des réactions. Je comprends la réaction des lobbies, là, mais la réaction des gens, c'est quoi? Est-ce que je vais attendre moins longtemps? Est-ce que je vais être servi plus vite? Puis je paye pas. Comme je paye pas actuellement pour être opéré dans des centres privés, parce qu'il y a des ententes de service, des corridors qui envoient des patients vers ces cliniques. Et ce sont des centres privés. Mais c'est l'État qui paye parce que l'État peut pas t'opérer ailleurs. Le ministre Christian Dubé sera avec nous aussi tantôt pour en parler. Bon, on va parler d'immigration parce que c'est un autre enjeu de la campagne électorale, surtout que hier, les chefs y sont allés de leur proposition. Dans le fond, voulez-vous 35 000 immigrants, en voulez-vous 50 ou en voulez-vous 80 000? Quand on regarde, par exemple, la proposition du Parti québécois qui dit les nouveaux arrivants, là, capacité d'accueil limitée, 35 000, ça va être parfait. Et c'est pas vrai que les immigrants vont nous aider avec notre problème de main-d'œuvre. Québec solidaire parle de 80 000, ce qui est quand même beaucoup. Et bon, les libéraux sont quelque part à mi-chemin. C'est donc une ouverture des frontières et aussi avec l'idée de combler les nombreux postes, et pas que dans le réseau de la santé, mais ailleurs. Et M. Legault dit, ben nous autres, on est dans le milieu. Nous autres, on est raisonnables et on pense que c'est la seule façon d'avancer. Évidemment, on peut discuter de ça jusqu'à demain. Est-ce que l'immigration arrive à nous aider à combler les postes en question? Peut-être. Mais il est clair qu'il y a aussi un enjeu de productivité au Québec. Puis les entreprises sont pas au maximum parce qu'on manque de personnel. Puis c'est, je le disais, c'est vrai dans tous les domaines. Mais c'est quand même... Et là, je trouve que la campagne commence aussi à prendre un peu de coffre avec des questions comme celle-là qui sont des questions importantes puis qu'on va débattre de plus en plus dans les prochaines semaines. J'attire votre attention aussi sur l'attitude du premier ministre, qui est bien difficile à comprendre. Peut-être que c'est l'espèce d'avance dans les sondages, là, mais on peut pas dire là, que la première semaine, on est au jour 10, là, que la première semaine s'est très bien passée. Je vous donne deux, trois exemples bien simples. Là. À ce débat à Radio-Canada, cette présence des chefs, d'aller dire que la réforme du mode de scrutin pour introduire la proportionnelle, ça n'intéresse pas personne, sauf les intellectuels. Là, tu t'étais un peu... Je m'excuse, là, mais d'abord, c'était une promesse de la CAQ. Et non seulement c'est une promesse, mais ils ont signé avec les autres partis un document. Puis je suis pas certain que le bon peuple en parlait tant que ça il y a 4 ans. Et pourtant, c'est un enjeu. Quand on est dans l'opposition, c'est toujours un enjeu. Quand on s'installe au pouvoir, on veut pas déplaire aux députés qui pourraient être touchés par ça. Parce que le mode de scrutin actuel fait qu'avec même pas la majorité des voix, la CAQ pourrait se retrouver avec 90-95 députés. Puis je comprends des autres partis qui disent « Hey, on veut se faire entendre. » Puis c'est vrai que ça fait souvent des gouvernements minoritaires. Alors, tu sais, de dire c'est une patente d'intellectuel moyen. Puis de ramener la discussion sur le troisième lien, le tunnel, entre une chicane Québec-Montréal, vous pouvez remarquer que la ville est aussi divisée. Puis que les gens de Québec pensent une chose, puis l'autre bord à Lévis en pense peut-être une autre. Puis autour, la fameuse banlieue, c'est peut-être pas le même point de vue. Alors, je pense pas que c'est une chicane Québec-Montréal. Là. On n'est pas dans ce type de discussion. Autre volet dont je vais vous parler ce matin, c'est le transport. Là, c'est la rentrée scolaire pour vrai. Et Le Devoir nous dit que des élèves verront leurs activités à l'extérieur de l'école supprimées, modifiées, écourtées à cause du manque de chauffeurs et d'horaires plus restreints. Donc, les fameuses sorties culturelles qui font partie de la vie scolaire pourraient être mises de côté. Puis là, on donne des exemples là, dans Le Devoir de centres de services scolaires qui ne trouvent pas assez de monde. La semaine passée, je vous ai parlé de transport adapté. Et dans certains cas, de la présence nécessaire d'une personne qui accompagne. On va vérifier dans la journée si Catherine a eu accès à quelqu'un pour l'accompagner. Je rappelle qu'elle est quadriplégique et qu'elle a besoin d'une personne. Elle va au CHUM une fois par semaine. Elle a son traitement. Pour y aller, ça va, mais pour revenir, elle a besoin de quelqu'un parce qu'il y a des effets secondaires. Je vous lis un courriel que j'ai reçu. Je vous soumets un cas parmi tant d'autres d'une personne devenue lourdement handicapée dans la jeune cinquantaine. Aujourd'hui, 78 ans, pratiquement aveugle, sourde, incapable de marcher et n'ayant l'usage que d'un seul bras. Je l'accompagne dans ses déplacements depuis 20 ans. Les déplacements étant parfois longs, de nombreux arrêts, je la rassure en lui indiquant où l'on se trouve. Bien sûr, je vais désormais aller l'attendre à son lieu de rendez-vous, mais pour le retour, je vais devoir prendre un taxi pour m'assurer d'arriver chez elle avant. Si la STM doit absolument réduire ses services, qu'elle permette au moins l'accompagnement pour les rendez-vous les plus stressants, notamment à l'hôpital. C'est pas ce qui se passe à la STM, là. Mais je peux pas croire qu'on n'est pas en mesure d'offrir un service au plus faible de la société. Je rappelle que Projet Montréal, c'est un des fers de lance, là, de dire, nous, on s'occupe des démunis, puis on s'occupe des pauvres, puis de l'habitation, puis le transport. J'en ai plein d'exemples comme ça de transport adapté, où le service est de plus en plus mauvais, et les gens sont souvent laissés à eux-mêmes, sans parler de la bureaucratie qu'on essaie de démêler. Alors ça, c'est à lire. Il y a un dossier aussi sur les enfants qui font l'école à la maison dans la presse ce matin, Tristan Péloquin. C'est assez intéressant. Il y a un suivi qui se fait, mais il y a aussi ce qu'on appelle un corridor un peu plus marginal. Vous pourrez lire ça ce matin. La Banque du Canada, on va surveiller l'annonce cette semaine. Ça pourra encore grimper, donc une pression sur les taux d'intérêt. Scène internationale, retour ce matin de Jean-François Lépine. On va regarder la situation en Ukraine, entre autres l'Agence internationale de l'énergie atomique qui doit rendre son rapport sur la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, qui est occupée par les forces russes. Beaucoup d'inquiétudes. Et aussi, on reviendra, je fais ça rapidement, là, mais article du New York Times en fin de semaine, où le Kremlin, Moscou, il va de toutes sortes d'allégations, notamment sur l'existence en Ukraine de laboratoires pour développer des virus, des laboratoires également en Afrique pour développer des virus. On voit actuellement avec une série, appelons ça, d'informations assez propagandistes, mensongères, et qui alimentent beaucoup les réseaux sociaux. Et à un point tel que les Russes vont plaider leur cause. Ils n'ont pas de preuves là, de ce qui avance. Ils lancent ça dans l'univers, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuves. Mais ils portent plainte officiellement à Genève et ce sera entendu. Ça a commencé hier puis ça va se poursuivre aujourd'hui. Donc, on va en reparler tantôt.